pour ouvrir ce deuxième temps de notre matinée. Voilà, donc pour ce deuxième temps, alors l'approche sera beaucoup moins historique que la précédente, parce que je vais me centrer sur d'abord le terme de biodiversité, le contexte dans lequel il a été forgé, et puis le fait qu'on puisse considérer effectivement que la biodiversité est quelque part un concept. Et puis bien sûr, on pourra évoquer, et puis ce sera sans doute plus l'objet de notre échange après cette deuxième conférence sur les différents enjeux de la biodiversité. Alors du coup, en préparant cela et puis en entendant le recteur tout à l'heure, Jacques Moret, je disais, mais effectivement, avant que ne soit forgé ce terme, qui finalement a une quarantaine d'années d'existence à peine, on parlait de nature, on parlait de faune, on parlait de flore. Je me souviens dans un des films, un des documentaires que j'ai eu l'occasion de commenter, de présenter pour l'Espace Modeste France dans le cadre de l'Image de Science, il y a justement le Jacques Moret qui intervient. Alors, c'est un film de 2010, donc à l'époque où il était au muséum, et qui dit, moi, finalement, je préfère le terme de nature. Alors, effectivement, alors, on a beaucoup manié, moi, en l'occurrence, j'ai utilisé indifféremment des termes qui ne sont pas forcément synonymes, tels que environnement, nature. Là, je parle de faune, de flore, et puis maintenant de biodiversité. Alors, c'est vrai que peut-être que les préoccupations en matière de ce qu'on n'appelait pas encore biodiversité sont fort anciennes. Je me souviens avoir lu quelque part que un roi perse de l'Antiquité avait pris un décret visant à protéger le cèdre. Alors, pour des raisons sur lesquelles il faudrait revenir, qui ne sont pas comparables avec les raisons pour lesquelles on protège des espèces animales ou végétales aujourd'hui. Mais voilà, il y a un intérêt effectivement fort ancien pour ces questions-là. Donc là, j'ai voulu... Alors, j'avais indiqué dans le titre, effectivement, biodiversité menacée, convoitée, et à la réflexion pour recentrer mon propos, quitte à effectivement l'ouvrir après, je l'ai plutôt sous-titré concept en jeu pour dire, bon, ben voilà, je vais essayer avec vous de décrypter ce terme et la manière dont il a été forgé, les conditions dans lesquelles il était forgé, le contexte, et puis comment on peut le définir aujourd'hui d'une certaine façon. Alors, donc, je l'évoquais, c'est un terme qui a une quarantaine d'années, hein, qui a été... alors, l'expression elle-même de diversité biologique en anglais est apparue en 1980 dans deux articles, et le néologisme biodiversité a été forgé, finalement, à l'occasion d'un forum qui s'est tenu à Washington en septembre 86, la première manifestation scientifique finalement organisée autour de ces questions, donc par deux scientifiques, Edward Osborne Wilson, qui est un entomologiste, hein, on l'associe souvent aux fourmis, hein, il travaille sur les fourmis, sur la discipline controversée qu'on appelle la sociobiologie, c'est un autre sujet, mais voilà, donc c'était co-organisé donc par Edward Osborne Wilson et par Walter Rosen, qui est de l'Académie des sciences des États-Unis, hein, qui a co-dirigé ce forum. Alors c'est à l'occasion de ce forum qu'a été forgée cette forme contractée de biodiversité et qui a connu un certain succès médiatique au moment de la publication des actes. Alors, ce terme donc qui a connu un certain succès médiatique a donné lieu à un certain nombre de définitions. Pardon. Alors, je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette définition qui a été proposée en 92 au sommet de la Terre à Rio, donc Rio 1 si vous voulez, donc l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique qui évoque effectivement ces questions de diversité biologique. Je vous laisse le lire. Donc, qui montre finalement que c'est un système emboîté. Hein. On a plusieurs niveaux ou plusieurs étages. Hein. Donc ça, j'en vois qui effectivement, enfin vous connaissez effectivement les différents étages. Hein, c'est juste pour repréciser ça. Alors effectivement, il y a l'aspect génétique, hein, la diversité au sein des espèces, la diversité intra-spécifique, si on veut, la variabilité génétique au sein des différentes espèces. Il y a la dimension spécifique. Alors, sur le plan médiatique, c'est l'étage qui est le plus facile à présenter et discuter. Effectivement, de façon intuitive, que l'on soit scientifique ou pas, on se fait une idée de ce qu'est l'espèce. Donc, effectivement, c'est la diversité des espèces. Et on médiatise beaucoup la question de certaines espèces invasives, en danger, enfin, etc. On se situe très souvent à cette échelle-là. Et puis, il y a l'échelle écosystémique, hein, les écosystèmes terrestres, marins, les écosystèmes aquatiques, les complexes écologiques. Donc là, si on veut avoir une première définition, j'allais dire un peu normative ou orthodoxe de la biodiversité, effectivement, c'est un concept qui s'intéresse aux interactions, aux dimensions, aux échelles génétiques spécifiques, écosystémiques du vivant. En tout cas, voilà, c'est la définition qui a été proposée en juin 92. Alors, effectivement, on dit l'espèce, donc on a un peu, bon, on se fait une idée de ce qu'est l'espèce. Hein, bon, voilà. L'idée qu'il y a l'interfécondité, hein, donc le fait que des individus d'une population peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire et engendrer une descendance viable et féconde, ceci dans les conditions naturelles. Donc voilà, on peut repérer l'espèce. Alors on pourrait dire, il n'y a pas de pièce à y mettre, comme on dit chez moi, l'espèce c'est quelque chose d'assez robuste, sauf que ceux qui travaillent sur les micro-organismes disent, oui, effectivement, la notion d'espèce est un peu plus compliquée. Hein, quand on fait un inventaire de la biodiversité, classiquement, on pense à la faune et à la flore, mais que je sache, les levures, les bactéries, les microbes font partie aussi de la biodiversité. Et là, effectivement, on est sur des organismes qui sont extrêmement instables, qui ont une grande variabilité, dont les limites spécifiques sont difficiles à définir. Donc, voilà, c'est pas aussi robuste qu'on pourrait le dire, cette notion d'espèce. En particulier, si on veut faire l'inventaire de la biodiversité en inventoriant les espèces. Puis après, il y a la question des virus, c'est vivant, c'est pas vivant, enfin bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait des virus donc voilà, on peut s'interroger effectivement sur le niveau spécifique de la biodiversité tel qu'il est défini, comme s'il n'y avait pas d'interrogation sur le concept d'espèce lui-même. Alors, la dimension écosystémique, donc là, évidemment, comme on est en Poitou-Charentes, je me suis intéressé à ces cartes-là, hein, qu'on peut trouver assez facilement. Donc, voilà, on a les zones humides, par exemple, hein, les plans d'eau, une mare, comment on appelle ça, les zones humides avec les droséras, une tourbière, etc. Merci. Voilà, donc ce sont effectivement des écosystèmes qui font l'objet effectivement d'arrêtés de protection. On a évoqué tout à l'heure la question des zones, enfin de Natura 2000, etc. Donc ce sont des zones d'intérêt écologique pour le territoire français, mais également pour l'Europe. On retrouve ces cartes, hein, donc sur le site qui est là. Donc c'est l'écosystème. Pour dire, voilà, un écosystème, bon, c'est quelque chose, bon, c'est un concept scientifique assez bien balisé. Moi, j'ai appris quand j'étais étudiant que l'écosystème, c'était biocénose et biotope, hein, donc un ensemble de communautés vivantes en relation avec un biotope, hein, des conditions d'environnement, etc. Sauf que là aussi, c'est quelque chose qui m'a alerté, je dirais, lors d'un congrès auquel j'avais participé dans le domaine de l'ingénierie écologique, dans lequel on interrogeait la pertinence du concept d'écosystème pour effectivement appréhender l'environnement. Est-ce que le concept d'écosystème est un découpage ou un concept pertinent? On remet en cause la notion de climax, hein, pour ceux qui connaissent un peu les choses. Et puis, donc, Patrick Blandin, auquel j'aurais pu adresser cette question-là, a beaucoup travaillé cette question-là en proposant d'autres unités, l'éco-complexe. Les géographes ont proposé le géosystème. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce qu'en penseraient les forestiers. Je vous interrogerai là-dessus tout à l'heure. Mais voilà. Est-ce que le concept d'écosystème est véritablement un concept opératoire? Ce que j'en tire comme non-spécialiste de l'ingénierie écologique, mais pour avoir débattu, discuté avec eux il y a un an et demi maintenant, c'est qu'effectivement, voilà, ils trouvent que ce n'est pas forcément très opératoire. Donc là, si on continue à définir le concept de biodiversité en disant, voilà, on a des choses bien solides, on a l'écosystème, on a l'espèce, avec des niveaux qu'on peut appréhender, effectivement, donc la territorialité de l'écosystème, enfin, les géographes ne s'y retrouvent pas trop non plus là-dedans. Donc voilà, donc vous voyez bien, je suis en train de mon propos, c'est de vouloir rendre de moins en moins robuste, j'allais dire, cette question du concept de biodiversité. Et puis alors après, le niveau génétique, effectivement, c'est la variabilité au sein des espèces. Alors donc là je vais, voilà, ça c'est du maïs Monsanto, si vous voulez. Le maïs que l'on connaît, c'est ça. Le foyer génétique du maïs, qui le Mexique, c'est 2000 variétés. Donc là, effectivement, on a là, c'est très joli parce que c'est très illustratif au niveau phénotypique. Effectivement, ceci illustre la variabilité génétique au sein de l'espèce maïs. Et donc, on pourrait effectivement discuter aussi de l'intérêt, de l'importance qu'il y a à préserver ce potentiel de variation, cette variabilité au sein des espèces, en particulier les espèces dont on a besoin, nous, pour nous nourrir, nous vêtir, enfin, diverses choses, etc. Puisque les pratiques agricoles classiques, on va dire, tendent plutôt à réduire la variabilité du niveau génétique pour des questions de demande économique, de rendement, etc. Donc, on cultive très peu d'espèces de bananes, par exemple. Enfin, si vous allez dans un supermarché classique, vous avez très peu de variétés de tomates, de bananes ou de pommes par rapport au potentiel. Il y a un conservatoire de la tomate, hein, du côté de l'Indre-et-Loire, où ils ont, donc au château de la Bourdaisière, il y a 600 variétés de tomates qui sont conservées et préservées. Donc là, on a, je veux dire, même si on s'adresse à un public, puisque tout à l'heure, il était question des enjeux éducatifs, même si on s'adresse à un public de non-scientifiques, de non-spécialistes, d'enfants, ce sont des choses concrètes. Hein. On va sur le marché, on achète des pommes, on ramène 10 ou 15 variétés de pommes, on les goûte, on les observe, on les touche, on les sent, etc. Et donc là, on appréhende de façon extrêmement concrète, avec éventuellement de jeunes enfants qui n'ont jamais fait de génétique de leur vie, on leur fait sentir ce qu'est, voilà, on a un concept qu'on ne peut pas faire passer comme ça en transposition didactique, mais effectivement, on fait toucher du doigt, si je puis dire, ce qui concerne le niveau génétique de la biodiversité, donc la variabilité intraspécifique. Donc on a effectivement ces trois échelles, ou ces trois étages, ou ces trois niveaux. Alors c'est intéressant, quand on dit biodiversité, on dit, voilà, je dis biodiversité, mais vous parlez de quoi? Vous parlez des écosystèmes, vous parlez des espèces, vous parlez de la variabilité, vous parlez des trois, c'est emboîté, effectivement. Alors, il y a bien sûr cette variabilité naturelle, et puis il y a cette variabilité qui est liée à la domestication aussi, bien sûr. Alors, le problème, donc, qui se pose, un des autres problèmes, je dirais, qui se pose avec la biodiversité, c'est la question des inventaires. Donc effectivement, on dit généralement qu'on a inventorié à peu près 1,8 million d'espèces. Donc on parle au niveau des espèces, on va dire. On va retenir 2 millions, si on veut, moins de 2 millions d'espèces. Mais bon, on a finalement des différentes manières d'appréhender la biodiversité, il n'y a pas réellement de mesure objective ou normalisée. Il existe différents observatoires de la biodiversité qui tentent de collecter des données, qui s'efforcent de les centraliser, éventuellement dans le cadre de différentes structures associatives, gouvernementales, intergouvernementales, etc. Alors là, ce que figure ça, c'est effectivement une proposition, une innovation, si vous voulez, qui était proposée donc lors de ce qu'on a appelé l'année de la biodiversité 2010. C'est finalement de créer une structure qui serait à la biodiversité ce qu'est le GIEC pour le climat, hein, le groupe inter gouvernemental d'experts sur le climat qui rend un rapport régulièrement et qui effectivement alors fait autorité et fait aussi l'objet de débats, de controverses, mais effectivement on a une structure qui travaille à réunir toutes les données disponibles, qui essaye de mutualiser les simulations, les projections sur le climat, ses évolutions, ses changements, etc. Et donc l'idée, c'est de se dire effectivement il serait intéressant que la biodiversité et son GIEC, alors voilà, donc c'est une plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc qui a été effectivement officiellement créé, lancé en 2012. Voilà, donc l'objectif étant effectivement d'établir un dialogue. Alors il y a le niveau scientifique, il y a le niveau politique, et puis il y a la question effectivement des défis à relever en matière de biodiversité. Voilà quelles sont en gros les fonctions de cet organisme, alors qui n'a, loin s'en faut, pas bien sûr encore la surface, les moyens, etc., qui sont ceux du GIEC. Enfin, c'est l'intention, au départ, c'est une intention politique. Hein, donc, voilà, question de l'évaluation des biens et des services, les politiques à mettre en œuvre, voilà. Coordonner les approches de la production de nouvelles connaissances. Donc, essayer effectivement de, sinon de centraliser, du moins de coordonner, de rendre visible et de fédérer l'ensemble des travaux sur la biodiversité. Parce que donc, effectivement, où en est-on aujourd'hui ? Donc, je l'évoquais à l'instant, on aurait, voilà, à peu près 1,8 million d'espèces, donc décrites, répertoriées, etc. Alors, après, la question qui se pose souvent, c'est, en réalité, la planète Terre renferme combien d'espèces ? Là, on est obligé de faire des projections. Alors, selon les cas, selon les projections, voilà, on dit ben, peut-être qu'il y en a en réalité 100 millions, peut-être qu'il y en a 30 millions, 13 millions. Alors, j'avais... Quand on s'était rencontré là à France Culture, il y avait un biologiste du muséum là qui partait et qui j'avais discuté avec lui. Et malheureusement, je me tourne vers vous parce que j'ai pas la mémoire du nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, bon, ça fait rien. Enfin, c'est un grand spécialiste de la biodiversité du muséum qui lui me disait effectivement, on serait plutôt sur 13 millions. En disant, bon, on peut projeter, on fait faire des projections. Alors, comment fait-on ces projections ? Ben, on les fait en fonction de la fréquence des découvertes. Hein. Il y a un certain nombre, donc on fait tourner un moteur statistique par rapport aux fréquences de découvertes dans différents taxons. Donc, effectivement, on peut prévoir, voilà, chez les champignons, voilà, on a une espèce de curseur, hein, voilà, le nombre d'espèces décrites et le nombre d'espèces qui resteraient à décrire éventuellement. Alors, évidemment, chez les vertébrés, on a pratiquement fait le tour, encore que de temps en temps on découvre un petit vertébré inconnu, nouveau pour la science, mais voilà, donc il y a effectivement beaucoup plus à voir que sur les insectes, c'est très prudent, hein, ça s'en va en, voilà, on s'en, voilà, donc voilà, on ne sait pas, voilà, donc on a effectivement différentes projections, donc autrement dit, qu'est-ce que je suis encore en train de vous dire, excusez-moi si c'est peut-être un peu obsessionnel, ben, c'est pas très robuste non plus. La connaissance que l'on a de la biodiversité, ce dont on parle, c'est effectivement de la biodiversité qu'on connaît par définition, hein, on ne parle que de ce qu'on connaît, et on a effectivement, on est un petit peu comme, enfin, les observatoires de la biodiversité, souvent on les compare à des observatoires astronomiques, c'est-à-dire effectivement, si je prends l'image, alors l'image très, très basique du télescope, effectivement on voit un coin de ciel, on voit un certain nombre d'étoiles, on peut les compter, regarder leur magnitude, etc. Pardon ?
Tout à
Et tout d'un coup, il y en a une nouvelle, ou alors il y en a une qui disparaît, ça c'est encore mieux par rapport à la biodiversité, il y en a une qui disparaît. Donc effectivement, vous voyez un certain nombre d'étoiles, il y en a une qui disparaît. Est-ce que vous devez induire obligatoirement que les étoiles sont en train de s'éteindre ? Pas forcément. Donc si vous voulez, on a effectivement un regard très orienté et on évoque très souvent, et à juste titre, je vais expliquer pourquoi, me semble-t-il, on évoque à juste titre la question de la biodiversité en crise, donc la crise de la biodiversité, et on peut effectivement répertorier tous les jours le nombre d'espèces effectivement qui sont menacées ou en voie d'extinction. On a une liste macabre d'espèces qui ont disparu, mais on parle effectivement de ce qu'on connaît, on parle de la biodiversité dont on a besoin, dont on a l'usage parce que c'est de la biodiversité qui nous enchante, enfin, etc. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on se préoccupe de biodiversité, au-delà des raisons économiques qui sont souvent mises en avant. Mais alors, quelquefois, j'imagine un extraterrestre qui, de très loin, observerait l'évolution de la biodiversité sur la planète et qui aurait une vision alors complète, bien plus affinée que nous, de la biodiversité. Peut-être que la biodiversité de la planète n'est pas du tout en crise. Peut-être qu'il y a des taxons sur lesquels on a peu de prise qui sont en train d'exploser. Mais évidemment, alors je pousse le bouchon un peu loin et puis je suis peut-être un peu dans la provocation, mais effectivement, la biodiversité, alors quand on dit la crise de la biodiversité, c'est la biodiversité que l'on connaît, la biodiversité dont on a besoin, la biodiversité qui nous intéresse, c'est effectivement une vision assez anthropocentrée de la question. Mais alors là, du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir péril. Donc nous, espèces menaçantes, sommes probablement aussi une des espèces menacées, puisque la biodiversité dont nous avons besoin, si elle est en danger, ben elle met en danger nos modes de vie et nos modes de consommation. Alors ça, c'est juste une mise en perspective qui explique pourquoi on parle de sixième crise d'extinction. Donc on aurait repéré, là aussi c'est controversé, mais c'est sur la base d'indications effectivement données par la géologie, la paléontologie, la paléoclimatologie, etc. La Terre, depuis qu'il y a de la vie sur la Terre, aurait, j'allais dire, traversé ou essuyé cinq grandes crises d'extinction. Alors la dernière, qui est la plus connue, et là aussi dont on peut parler à un niveau pédagogique, c'est effectivement celle qui a vu la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais évidemment, les dinosaures, c'est l'animal qui cache le reste, puisqu'il y a probablement 80-85% de la biodiversité qui aurait disparu, donc, pour des raisons géologiques. Enfin, on pourrait en discuter, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, il semblerait, sur la base des observations, pas très robuste, mais sur la base des observations dont on dispose, que la Terre soit en train de traverser sa sixième phase d'extinction massive. Alors, le caractère inédit, si vous voulez, c'est que cette extinction serait due à l'action d'une espèce, alors que les crises précédentes avaient des causes plus complexes, ou enfin, en tout cas, ce n'est pas une espèce qui a entraîné la disparition de toutes les autres, si on est sur cette perspective pessimiste. Alors, bon, on dirait, bon, effectivement, la Terre s'en est remise, elle s'en remettra de la sixième, mais nous, peut-être pas. Effectivement, alors, on dit souvent, là aussi, de façon peut-être un peu simple, que si nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons dire merci aux dinosaures parce qu'ils nous ont laissé la place. Donc, effectivement, il y a des crises qui sont des catastrophes pour certains groupes, certains taxons, et qui sont des opportunités pour d'autres. Donc, si cette crise se confirme et si elle aboutit effectivement à un rebattage des cartes, peut-être que ce sera une opportunité effectivement pour d'autres espèces. Sauf que on a un problème d'échelle de temps. Si effectivement la biodiversité se restabilise autour de différents taxons en quelques millions, quelques dizaines de millions d'années, nous on n'a pas ce temps-là devant nous, quoi. Effectivement, nous on a besoin de préserver cette biodiversité dont on a besoin maintenant. Et on on a pas le temps qui joue pour nous. Alors, voilà, donc effectivement, ça on le sait, et je veux dire, ça a même été déclaré officiellement en 2005 lors de la conférence internationale biodiversité, science et gouvernance, hein, le scientifique et le politique sont là, donc déclaration de Paris sur la biodiversité, donc cette biodiversité constitue un patrimoine naturel. C'est intéressant d'associer ça à la notion de patrimoine, donc bien sûr une ressource vitale dont l'humanité dépend de multiples façons, donc qu'apporte cette biodiversité à l'humanité, donc elle rend des biens, hein, des biens de la biomasse, hein, l'usage direct des biens qui nous sont fournis par la biodiversité, des services écologiques, hein, en matière de climat, en matière de régulation du cycle des eaux. Enfin, le rôle des forêts est essentiel à ce niveau-là, bien sûr. Il y a un certain nombre de valeurs, alors des valeurs d'usage. Dans une vision plus biocentrée, on peut mettre en avant la valeur intrinsèque de la biodiversité. C'est tout à fait intéressant aussi. La biodiversité peut aussi nous intéresser pour d'autres raisons, mais la biodiversité a existé en tant que telle et a sa propre valeur, même s'il y a des modélisations, des calculs qui sont faits actuellement pour essayer de marchandiser ou de donner un prix en euros ou en dollars à la biodiversité. Donc valeur d'usage, valeur spirituelle, valeur esthétique, etc., valeur morale, valeur éthique. Au 19e siècle, ça a été réfléchi déjà, cette question-là. Et puis, bien sûr, des opportunités de s'adapter. C'était presque une valeur potentielle. On ne sait pas quelles ressources existent encore dans cette biodiversité et qui pourraient nous apporter un certain nombre de solutions, soit pour nous soigner, hein, des molécules qui pourraient être utilisées ensuite par l'industrie pharmaceutique, et de nouvelles technologies, etc. Donc il y a des opportunités qui peuvent être offertes par cette biodiversité dont on ne connaît pas encore parfaitement les contours. Alors, du reste, un certain nombre de consortiums pharmaceutiques ne s'y sont pas trompés. Je pense à un pays sur lequel j'ai un peu travaillé, qui est le Costa Rica, où on a effectivement l'INBIO, alors c'est l'Institut National de la Biodiversité, qui il s'appelle National, mais en réalité c'est un consortium de groupes pharmaceutiques, etc., privés, qui réalise l'inventaire de la biodiversité. L'inventaire de la biodiversité du Costa Rica. Alors, pour quelles raisons? Alors, c'est connaître, comprendre, protéger. Ça, c'est effectivement le slogan en matière de communication. Connaître, comprendre, protéger. Mais il y a aussi utiliser, effectivement, puisqu'il y a des financeurs qui entendent bien, effectivement, trouver de nouvelles ressources pour développer leur activité. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut intégrer la question de la biodiversité dans la problématique de développement durable? Alors là encore, officiellement, oui. Le journal officiel du 12 avril 2009 dit effectivement le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. Alors il ne suffit pas de l'écrire et pour le vivre ou pour le concevoir de cette façon-là. Est-ce qu'effectivement, le fait que la biodiversité mobilise, ou un certain nombre d'enjeux économiques, sociaux, écologiques, etc., effectivement, on est dans le cadre de la complexité qui serait celle du modèle de développement durable. Mais bon, on peut effectivement en discuter. Alors, juste un point par rapport à la valeur économique. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé à la fin du siècle dernier, donc par un chercheur et son équipe, donc sur la valeur des services écosystémiques rendus à l'humanité. Et donc, il y a une évaluation qui a été faite, qui est celle-ci. Alors, évidemment, 33 milliards de dollars US de l'époque, ça ne nous dit rien, sauf si on y dit c'est le double du PNB mondial. C'est-à-dire, effectivement, là, si on a une entrée économique, on peut dire, voilà, effectivement, quand, à quelle hauteur en dollars peut-on évaluer les services rendus par les écosystèmes, par la biodiversité, à l'humanité. Alors, c'est un travail qui a été récemment lancé à l'issue du Grenelle de l'environnement, du premier Grenelle de l'environnement, donc, où une équipe de chercheurs, dirigée par Bernard Chevassur, lui, a planché sur cette approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes. Et donc, le centre d'analyse stratégique, donc le CAS, a rendu sa copie, je dirais, par rapport à ça. Et on a évalué, Monsieur Persuit me corrigera sans doute tout à l'heure, mais effectivement, il me semble que, voilà, une forêt française, en gros, rendrait, alors par hectare, ce serait 1000 euros par an, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la valeur les services écosystémiques rendus par un hectare de forêt pourraient être évalués effectivement autour de 1000 euros par hectare et par an. Donc effectivement, ça pose aussi un certain nombre de questions par rapport à, je sais pas, un propriétaire privé qui dit, bon, effectivement, moi, cette forêt, elle me coûte de l'argent, mais je rends service à la collectivité à hauteur de... Donc voilà, on peut... En allant un peu plus loin, on pourrait exiger quelques compensations éventuellement. Ça, c'est peut-être les effets de la marchandisation, effectivement, de la biodiversité. Mais du coup, on peut effectivement évaluer la valeur économique de la coccinelle par rapport au service qu'elle rend en tant que consommatrice de pucerons. Combien ça coûterait si on mettait un pesticide? Donc, on peut faire un comparatif. Bien sûr. Donc ça a été tout à fait discuté, évalué. Alors effectivement. C'est critiqué notamment par un certain nombre des économistes de l'environnement, mais aussi j'ai fait allusion tout à l'heure à Raphaël Larrère, qui critique effectivement cette approche marchande de l'environnement, ou d'autres. Il y a Franck-Dominique Vivien, un économiste de l'environnement, qui dit attention, il y a un risque évidemment à marchandiser, parce que du coup les éléments de biodiversité qui ne nous rendent a priori pas de service ils n'ont aucune valeur, donc là effectivement on a une jauge économique qui est extrêmement orienté. Alors, en revanche, là justement, Bernard Chevassur, Louis, je l'ai entendu évoquer ces choses-là lors d'un entretien qu'il a donné dans une émission, elle disait, mais ça peut être intéressant de s'interroger sur la valeur donnée par des personnes, une famille par exemple, à la nature. Alors comment, de façon robuste, là une fois encore, Irvine, quelle valeur économique la famille qui va se promener à la campagne le dimanche donne-t-elle finalement à cette promenade? C'est très facile, on dit voilà, on y va en voiture, on dépense de l'argent. Donc combien de kilomètres je fais, enfin, etc. Donc je veux dire, voilà quel est le coût qui est subi, accepté par le fait qu'on ait envie de nature, on va se promener en forêt, on va sur des, regarder des falaises, le vent, etc. On voyage, on va aller voir de la nature exotique. Là encore, pour revenir d'un mot au Costa Rica, il y a à peu près un touriste sur deux qui vient au Costa Rica pour la nature. Donc il y a le coût. Et là, du coup, le calcul du coût économique, de la valeur économique donnée à ces éléments de nature-là est facile à faire. Et là, du coup, c'est effectivement très robuste. Donc ça, c'est une approche alors qui peut être sujette à controverse, mais qui peut être effectivement intéressante à avoir. Alors moi, j'avoue que j'avais une vision peut-être un peu simpliste, je l'ai sans doute encore, en me disant oui, cette approche économique, la marchandisation de la biodiversité, ça me gêne. Mais après tout, le fait de, comme on est dans un monde dominé par l'économie, le fait de donner une valeur économique, ça peut permettre d'attirer l'attention sur... Non. On en discutera, je fais exprès. Voilà, on pourra discuter de tout ça. Je vais vous donner la parole Je vais m'arrêter bientôt. Voilà. Alors après, oui. Alors Pour aller plus loin, travailler cette question de biodiversité, donc on a, j'allais dire évidemment, on a Robert Barbeau, donc qui travaille sur la biodiversité, Patrick Blandin, donc biodiversité et l'avenir du vivant, donc un autre ouvrage dynamique biologique, biodiversité dynamique biologique et conservation, ça voilà, puis un peu une petite page. Donc, philosophie de la biodiversité, puis une petite page de publicité personnelle sur l'entrée éducative en matière de biodiversité. Alors, j'aurais juste terminé par cette entrée-là en peut-être développant un exemple qui est lié à l'évolution des climats et à l'intérêt, l'importance, les enjeux qu'il y a derrière effectivement l'évolution climatique et sur les indicateurs. Alors, cette courbe-là, juste pour la balayer, pour dire que je ne veux pas discuter de effectivement les différents scénarios, est-ce que c'est les plus optimistes, les plus pessimistes, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est effectivement peut-être de s'intéresser à un domaine qu'on appelle la phénologie et qui s'intéresse à l'étude effectivement des variations, des particularités à la fois liées aux des particularités morphologiques, mais également liées au développement des végétaux, des animaux, l'apparition d'événements tels que par exemple les migrations, etc. Donc si vous voulez, c'est l'apparition d'événements qui chaque année affectent le monde animal et végétal peut être considéré comme un indice de changement de divers facteurs climatiques ou microclimatiques tels que la température, la longueur du jour, la teneur en eau du sol, de l'atmosphère, etc. Et donc ça, c'est un domaine de recherche alors qui est finalement assez ancien et qui connaît un certain renouveau, donc la phénologie, qui donc est l'étude de l'ensemble de ces particularités morphologiques du cycle de développement d'un végétal, d'un animal, et que l'on peut mettre en relation avec des changements climatiques ou microclimatiques. Alors c'est surtout développé dans le domaine des végétaux. Donc ce sont des observations qui sont assez empiriques au départ. On a effectivement la date de débourrement, par exemple, des bourgeons de telle espèce, la période de fructification, le retour des migrateurs, le cycle des insectes avec la période d'apparition de certaines larves, etc. Et puis d'une année sur l'autre, repérer les évolutions, les modifications. Alors, en réalité, les relevés phénologiques systématiques ou fiables, scientifiques si vous voulez, existent depuis les années 80 en France, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à installer des stations météorologiques et où on a systématiquement consigné un certain nombre de données phénologiques telles que la date de retour des hirondelles, la floraison des lilas, enfin des choses comme ça. Et donc ça, c'était un certain nombre de données alors dont on s'est désintéressé après la Seconde Guerre mondiale, en particulier parce qu'un certain nombre de progrès techniques, dans le domaine de l'agriculture en particulier, ont pu faire croire qu'on pouvait s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, en particulier de contraintes climatiques. Alors, cette question-là a été relancée par l'étude d'un historien, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a publié dans les années 60 « Histoire humaine et comparée du climat en Occident, canicules et glaciers, 13e-18e siècle ». Donc ça, c'est, il a remis, je dirais, sur le devant de la scène, j'allais dire, cette question des climats et effectivement comment on pouvait croiser un certain nombre d'éléments de l'histoire humaine avec des phénomènes climatique. Et puis bien sûr, à la fin du siècle dernier, donc la question des changements climatiques. Donc là, on a redécouvert, je dirais, la phénologie au travers de nouveaux enjeux qui étaient ceux des changements climatiques. Alors, Sur le plan, je passe assez vite là. Sur le plan éducatif, qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là ? Eh bien, le fait qu'il s'est créé un certain nombre d'observatoires, en particulier l'observatoire des saisons, un ensemble d'associations, mais également de laboratoires. Vous trouvez vous trouvez le CNRS, vous trouvez l'INRA, vous trouvez Tella Botanica, qui est une tête de réseau d'associations, commence à développer des programmes phénologiques qui en partie relèvent de ce qu'on appelle maintenant les sciences citoyennes ou les sciences participatives. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est que chaque citoyen, là où il est, peut faire des observations, des relevés phénologiques dans son environnement proche, hein, par rapport à des événements qui touchent la flore ou qui touchent la faune, voilà, des modifications, et puis les consigner en suivant une méthodologie assez simple. Alors on trouve la méthodologie sur le site de Tella Botanica, et effectivement engranger un certain nombre de données qui peuvent être ensuite utilisées par les chercheurs pour essayer de modéliser l'effet local sur certaines espèces changements climatiques. Alors, donc, c'est une plateforme, hein, l'Observatoire des saisons. Et puis, effectivement, on a relevé un certain nombre d'effets où on prévoit un certain nombre d'effets sur les plantes, sur les animaux, d'un certain nombre de modifications climatiques. Donc, les observations phénologiques qui sont faites peuvent donner lieu à un travail sur les conséquences écologiques. Alors, par exemple, je relève dans les régions tempérées l'inadéquation du cycle des pollinisateurs avec celui des arbres. Donc ça peut être une conséquence de changements climatiques ou microclimatiques locaux. Donc effectivement, il y a eu un phénomène de coévolution. Les phénomènes de coévolution sont très intéressants à étudier entre les pollinisateurs et les plantes à fleurs en particulier. Et donc c'est vrai que ces phénomènes de coévolution aboutissent à la possibilité par un certain nombre d'insectes effectivement de polliniser les arbres, et puis c'est une stratégie donnant-donnant. Hein. Alors effectivement, si l'impact de changement climatique met ces cycles en adéquation, il y a effectivement un risque grand pour la pollinisation des arbres et donc pour la production de fruits, etc. Ça affecte effectivement aussi les rendements de photosynthèse, le cycle du carbone peut être affecté, donc il y a des enjeux effectivement extrêmement importants autour de ça, mais ce qui m'intéresse là dans cette dernière partie, c'est de montrer comment chaque citoyen, alors un prof avec ses écoles, j'étais allé à un colloque en Suisse où un chercheur italien montrait comment c'était mis en place un réseau d'écoles qui, grâce à un logiciel, coordonnait l'ensemble des observations phénologiques qui étaient faites au long cours sur l'ensemble de l'année et communiquait ces observations à des laboratoires pour dire voilà ce qui se passe au niveau microclimatique dans notre territoire. Au niveau de la végétation en particulier, c'est plus facile, plus évident de travailler sur les végétaux que sur les animaux. Voilà. Merci de votre attention et puis pardonnez l'effet un peu TGV de ce deuxième exposé et peut-être quelque peu provocateur parfois.
Je voudrais revenir sur l'approche économique donc de la biodiversité, parce que je crois qu'il faut rajouter aussi au moins une valeur éthique et socioculturelle par rapport, justement, vous avez cité les consortiums pharmaceutiques qui ont un intérêt justement à utiliser la biodiversité pour produire des médicaments. Mais justement, ça peut être des fois au détriment de cultures autochtones qui, eux, ont la connaissance justement des effets des plantes, etc. Certains consortiums voudraient mettre des brevets sur justement la pour produire des médicaments. Et alors que donc il faudrait qu'il y ait davantage une reconnaissance de la connaissance de ces cultures traditionnelles autochtones et je sais ce que je voulais dire. Ça, c'est déjà un point important.
Oui, mais ça effectivement, oui. C'est intéressant, ça, parce que c'est, je dirais, il y a à la fois valorisation des savoirs locaux et utilisation ou instrumentalisation de ces savoirs locaux. Si je reviens encore d'un mot sur ce cas de l'INBIO, Institut National de la Biodiversité au Costa Rica, donc, comment sont réalisés les inventaires hein, de faune, flore, alors il y a les coquilles, les insectes, etc. C'est un spectre assez large. Eh bien, ils sont réalisés grâce à un dispositif qui relève de ce qu'on appelle la parataxonomie. Donc, les parataxonomes, ce sont effectivement des participants au programme, mais qui sont, qui sont du cru. Hein, donc là, ce sont des bons connaisseurs de la faune et de la flore locale qui sont issus de ces populations locales et qui effectivement collectent et valorisent les savoirs locaux en matière de biodiversité. Et alors, pourquoi parle-t-on de parataxonomistes ? Parce qu'ils ont une méthodologie qui est extrêmement simple, qui permet de créer des grands groupes, hein, les grands taxons, en disant, bon ben voilà, il y a telle plante qui, alors on va la déterminer simplement à partir d'indicateurs morphologiques, la forme des feuilles, son odeur, la forme des troncs, etc. Donc des critères qui ne sont pas du tout les critères utilisés par les botanistes, par les professionnels, et puis on va pouvoir mettre la plante dans un groupe, hein, qui a ces mêmes caractères-là. Et ensuite, les taxonomes vont affiner et déterminer vraiment l'espèce. Donc, si vous voulez, on a une sorte de réseau de terrain qui est à la fois constitué de personnes du cru, hein, qui connaissent simplement le milieu dans lequel ils vivent ou qui utilisent un certain nombre de ressources de la biodiversité, et puis ces espèces d'intermédiaires qui, effectivement, vont ensuite travailler en lien avec l'INBIO et qui vont collecter toute cette biodiversité-là. Donc, c'est-à-dire il y a valorisation des savoirs, hein, puisqu'on va effectivement les solliciter, on les implique effectivement dans ce programme-là, et vous avez raison, après, effectivement, il y a tous les enjeux économiques qui peuvent être derrière ça.
À propos du médicament, il y a une chercheuse qui est venue l'année dernière de l'Ordre des Amphis du Savoir, peut-être possibilité de retrouver la conférence sur le site de l'université, qui s'appelle Sabrina Krief, K-I-R-E-F. Je vous invite à regarder son site, elle travaille au muséum, elle travaille sur justement la façon dont les animaux, en particulier les primates, utilisent les biotopes pour se soigner. Donc elle pense aussi que c'est quelque chose qui va progresser, que ça va être des découvertes qui sont l'utilisation du biotope pour soigner les animaux peuvent aussi être assimilées à l'homme. Donc c'est vraiment très, 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 très passionnant ce qui est fait. Donc je vous invite à regarder son site sur le site du muséum et aussi peut-être à retrouver sa conférence où ses recherches doivent être en ligne. Pour l'information pour le médicament.
Alors, il me semble que l'autre volet de votre intervention était lié effectivement à la privatisation de la biodiversité, quoi, effectivement, hein, des brevets sur des éléments de génome, sur bon, ça, effectivement, c'est un débat extrêmement important. Hein, il y a une confiscation, hein, qui est faite.
Oui, Francis Tubé, directeur de l'IFRAE. Je voulais justement indiquer ce point qui, à mon sens, va au-delà de la problématique, même si elle est importante, du médicament et de la pharmacie, mais aussi sur le plan de l'alimentation, et où on voit des enjeux extrêmement importants. Alors, il y a tout ce qui se passe en Inde et dont on connaît bien maintenant et l'histoire et l'actualité quasi quotidienne, mais je crois qu'il ne faut pas ramener uniquement, même si ce n'était pas le propos, hein, la question de la biodiversité à cette dimension pharmacopée ou pharmacologique, mais bien aussi à la question de l'alimentation, sachant que les enjeux sont peut-être encore plus importants qu'autour de la question de la pharmacie. Je réagissais tout à l'heure, hein, à ton propos par rapport à, à la question. Voilà, et puis bien logique et bien normal. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, et tout ça est lié aussi à ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a maintenant un phénomène de financiarisation qui est en train de se mettre en place. La Caisse des dépôts et consignations, par exemple, qui est une grande banque, se positionne très fortement sur les mesures compensatoires liées aux infrastructures et qui arrivent à détruire des espaces de biodiversité remarquables, voire ordinaires, et à compenser, mais à compenser ailleurs et bien loin de là où les atteintes ont pu être portées, et notamment dans le sud de la France, toute une très très grande propriété qui a été rachetée par la Caisse des dépôts et consignations, où là, ils cultivent la biodiversité, ils l'entretiennent dans le cadre de ces mesures compensatoires. Et ce que l'on voit apparaître très facilement, puisque là, on est sur un système bancaire, c'est qu'il va vraiment y avoir donc cette question de la financiarisation de la biodiversité qui va se mettre en place et qui va nous renvoyer à tout autre chose que les services rendus, alors qui, effectivement, on peut mesurer de plus en plus, sachant que un repère que l'on a aujourd'hui aussi en train d'émerger très fortement, qui est très lié à la question du changement climatique, sont les sociétés d'assurance qui maintenant observent tout ça de très très près. Faut savoir qu'avec le risque de submersion qui est d'actualité là ces jours-ci, 150 000 biens immobiliers sont menacés en Languedoc-Roussillon. Vous imaginez bien ce que ça va pouvoir représenter le jour où ça va se provoquer en termes de vraies responsabilités et de vrais besoins par rapport aux sociétés d'assurance et aux sociétés de réassurance. Donc c'est aussi une autre façon de voir les services rendus ou la valeur économique de la biodiversité ou de la nature, pour faire plus large, que de dire mais qu'est-ce qu'il va falloir réparer et mettre en place avec un coût, là, cette fois-ci, économique très très fort, si vraiment il y a destruction et puis en plus atteinte aux biens et aux personnes. Donc je crois que là, on est sur un noyau extrêmement important et qui nous renvoie, comme tu le disais, au brevetage du vivant, mais aussi à l'économie du savoir, parce que ces savoirs locaux, aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont pillés par les multinationales, même sans parler de la main noire, tout ça. On n'est pas dans ce registre-là. Et le retour vers les populations locales ne se fait pas, voire est complètement contre-productif avec ce captage des semences. Donc je crois qu'il va vraiment falloir qu'au moins au niveau international, il y ait une... Alors je sais que ça démarre, hein, ça se fait, mais que ça booste un petit peu pour qu'il y ait une sorte de déontologie, d'éthique, voire de réglementation qui se mette en place autour de ces éléments-là, parce qu'on est quand même sur des problématiques très, très complexes et très importantes.
Alors, du coup, il faudrait, ce que je n'ai pas fait, creuser effectivement un petit peu plus le cahier des charges de l'IPBS. Est-ce qu'il y a ces dimensions que tu évoques de déontologie, de règles internationales en matière de biodiversité ? Et alors là, tu parles de la protection de la biodiversité, mais c'est aussi la protection des savoirs qui sont en jeu et des populations qui ont ces savoirs. Alors effectivement, par rapport à la pharmacopée, c'était illustratif, hein, bien sûr. Y a effectivement d'énormes enjeux en matière d'alimentation, évidemment.
Pour approfondir un petit peu la réflexion et rebondir sur ce que vient de dire Francis, En tant que naturaliste, on se pose tous la question de l'ambivalence justement de cette financiarisation des écosystèmes, etc. Au demeurant, dans un certain nombre de cas, je voulais citer simplement deux exemples sur lesquels nous nous sommes appuyés sur ces valeurs estimées, hein, le service écosystémique rendu par tel ou tel écosystème, pour contrer un certain nombre de projets. Deux exemples. Une carrière qui était prévue, un groupement forestier achète une forêt, 600 hectares. Le premier acte de cette société, de ce groupement forestier, est de déposer une demande de création de carrière de 50 hectares en plein milieu de la forêt, liée d'ailleurs à la LGV qui passait pas loin, parce qu'il fallait trouver des remblais, etc. On a le collectif des associations locales a contacté un certain nombre d'acteurs pour trouver les éléments. Bon, il y avait les espèces protégées, on était juste à côté d'un Cynatura 2000, mais manque de peau, pas dans le Cynatura 2000, juste à côté. Même s'il y avait des études d'impact à faire, des études d'incidence, on était, voilà, on manquait un petit peu d'éléments. Parler de l'écrevisse à pattes blanches, ça passait très au-dessus de la tête des autorités dites compétentes dans ce dossier-là. Et on a réussi à contrer le projet à partir du moment, et on a commencé à être écouté, où on a dit, attendez, 50 hectares multiplié par 950 euros par hectare et par an, ça va coûter tant à la collectivité. Tout le monde a regardé ça d'un air absolument ébahi et ça a déclenché, si vous voulez, quelque chose. Donc on s'est servi de ça pour contrer. Bon, la carrière n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu que ça, mais on s'en est servi. Dans un autre dossier, qui est celui du loup, que tu as cité aussi ce matin, j'ai eu l'occasion d'être... Donc je fais partie d'une ONG qui défend la place des grands prédateurs et qui estime que l'homme et les grands prédateurs peuvent parfaitement vivre ensemble. On a plein d'exemples en Europe. Je passe tous les ans quelques mois en montagne avec des éleveurs en Italie, en Espagne, etc. C'est parfaitement possible. Aller parler de ça actuellement en France, c'est chaud. Hein. Il fait beaucoup plus chaud que dans cette salle-ci quand vous avez un colloque avec les représentants de la FNSEA ou la Fédération nationale ovine, notamment. Bon, vous avez essayé d'expliquer que le loup a sa place, qu'il était là, que c'est une espèce belle, etc. Bon, ça passe absolument pas. Et puis... je me suis servi de ce que m'avait envoyé par courriel un collègue estonien. À partir du moment où ils ont protégé les loups, dont ils ont interdit la chasse aux loups dans leur forêt, les dégâts forestiers dus à la pression des grands animaux, le cerf notamment et l'élan là-bas, ont diminué de manière drastique. Et ils ont estimé ça. Ils ont dit, écoutez, la présence du loup nous permet d'éviter 3 millions d'euros de dégâts par an sur les plantations forestières. On a utilisé cet argument-là, du coup, ça fait tomber un certain nombre de propos qui ne parlaient du loup qu'en termes négatifs de coûts pour la société, etc. etc. Donc voilà, je crois que la financiarisation ou la monétarisation de la nature, ça peut être la pire des choses, mais de temps en temps, on peut essayer de s'en servir pour sauvegarder d'autres choses.
Effectivement, belle illustration de la complexité de ces questions. Voilà, comment bien utiliser les différentes entrées dans des contextes différents. Là, effectivement, peut-être que dans d'autres contextes, ce serait un autre argumentaire qui pourrait être développé. C'est effectivement l'intérêt et les limites de ce concept complexe.
Oui, une petite remarque sur les connaissances traditionnelles liées à la biodiversité. Ça peut avoir une deuxième face. On sait aujourd'hui qu'une bonne partie du trafic international d'espèces sauvages menacées se fait à destination du marché asiatique des médecines traditionnelles. Il y a énormément d'études qui ont été faites au niveau des consommateurs, notamment chinois, dont le nombre a augmenté grâce à l'amélioration du niveau de vie. Et ils sont très attachés à l'origine sauvage des produits qu'ils consomment. Pour eux, des os de tigre venant d'un élevage, c'est moins valable que des os de tigre venant de la nature sauvage. Donc, c'est à chaque fois, il faut bien penser à tout ça. C'est pas... médecine, par exemple, traditionnelle versus médecine occidentale qui serait abominable, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, juste une deuxième remarque. Je ne sais pas comment vous avez ressenti le chiffre intéressant de 33 milliards de dollars représentant deux fois, en fait, le PNB mondial. On peut le prendre de deux façons. On peut estimer, ah bah oui, quand même, c'est pas négligeable. Ou on peut dire, quand même, les humains... fortiche, ils arrivent à produire la moitié de ce que produit naturellement la planète. Attendez, il y a quand même une sorte de, comment dire, de fierté humano-centrée qu'on peut avoir. La moitié de ce que fait naturellement la planète, c'est considérable. Ça veut dire aussi l'emprise de l'humanité sur cette planète.
Bonjour, je suis enseignante en SVT et moi je voudrais poser une question par rapport, je rencontre une difficulté par rapport, concernant la biodiversité dans mon métier d'enseignante, par rapport à la classification d'espèces sauvages, endémiques, classées nuisibles. Et je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Lorsqu'il y a des affichages et des panneaux, très intéressants du reste pour toutes les espèces en voie de disparition, est protégée. Mais la question du nuisible, ce terme, je voudrais votre opinion. Merci.
Oui, enfin, effectivement, le caractère nuisible, il est défini par rapport à quoi ? Par rapport à quel type d'acteur, effectivement. Par définition, une espèce nuisible, intrinsèquement nuisible, ça n'existe pas. Donc, on l'a évoqué par rapport à des prédateurs, par rapport à différents éléments de la faune. Effectivement, c'est nuisible à quelqu'un. C'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est ça qui vous gêne ? J'ai pas bien compris ce qui vous...
Ensuite, par rapport aux élèves, apporter une argumentation, c'est pas indiqué sur la fiche que c'est nuisible par rapport à quelqu'un, justement, à des groupes. Ça ne figure pas. Enfin, ça n'est pas clair, je trouve. Au niveau éducatif, c'est... Voilà.
Le temps que vous... Allez-y.
Je peux apporter des éléments de réponse, mais oui, peut-être.
Oui, j'enseigne dans le même établissement. Non, ce qu'évoque ma collègue, c'est que tout simplement, on est en zone rurale, donc avec des élèves qui sont enfants en fait de chasseurs, agriculteurs, et pour lesquels en fait la terminologie de nuisible est très prégnante. Donc effectivement, quand ma collègue évoque dans le cadre de son cours certaines espèces, qu'elle évoque en fait la biodiversité, apparaît automatiquement en fait cette expression en fait de nuisible par rapport aux cultures, par rapport à la chasse, et donc après toute la problématique qu'elle a, c'est d'essayer de mettre en évidence le fait que l'animal en lui-même n'est peut-être pas nuisible, mais après c'est aussi le surnom, pourquoi il y a le surnom, mais on peut revenir en fait à l'espèce prédatrice qui peut limiter. Voilà.
Alors, je peux vous apporter des éléments de réponse, ce qu'il faut retenir, surtout avec des enfants, une espèce n'est pas nuisible en soi. Elle peut être potentiellement nuisible dans certaines circonstances. Et d'ailleurs, les listes d'espèces dites nuisibles, les plus courantes, on va dire, hein, la pie, le corbeau, etc., ce sont des listes qui ont été établies au niveau national et ce sont des listes d'espèces potentiellement nuisibles. Et ensuite, c'est à l'échelle régionale et départementale que dans cette liste, telle ou telle espèce peut être déclarée nuisible et la liste est revue tous les ans et fait l'objet d'un arrêté préfectoral parce que cette liste de nuisibles, elle est établie au regard des dégâts que ces espèces ont causés. C'est-à-dire qu'une espèce nuisible dans un département peut être relativement rare dans un autre département de France. Donc, il faut bien retenir pour les enfants, il n'y a pas d'espèce nuisible en soi. Toute espèce est utile, mais par rapport à certaines circonstances de lieu et d'environnement, une espèce peut être momentanément déclarée nuisible. Et ces arrêtés préfectoraux, ils sont repris tous les ans. Donc, si tu veux rajouter...
Moi, je serais tentée de tempérer là par rapport aux nuisibles, oui, à condition qu'on parle des espèces endémiques. Il y a les espèces invasives. C'est vrai qu'il y a des espèces qui, on voit bien où placer les campagnes d'élimination. Je pense à la Jussie actuellement. Mais c'est vrai que c'est la même façon. Mais c'est vrai que nous, en tant que professeurs, on ne peut pas. Le mot nuisible, c'est un mot, dangereux et on va dire un petit peu à bannir. Après, on doit tenir compte, certes, des cultures, mais c'est un petit peu comme le fan de jardin qui a des mauvaises herbes. De quel droit on peut s'autoriser à parler de mauvaises herbes ? En quoi sont-elles mauvaises ? Finalement, on s'aperçoit que les mauvaises herbes, en termes de pharmacopée, sont plutôt des bonnes herbes.
Il y a toute la malherbologie qui est un domaine tout à fait intéressant. C'est vrai que la Jussie est un bon exemple, puisque c'est effectivement une espèce envahissante. Alors, elle fait de très belles fleurs, elle est magnifique, mais à part ça, effectivement, elle est envahissante. Alors, pardon ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, il y a aussi des phénomènes de régulation qui sont intéressants. Moi, quand j'ai, dans une autre vie, j'étais prof de SVT aussi en collège-lycée, et on nous disait à l'époque, c'est très. Alors il y avait une petite expérience, alors pour les dégagements gazeux, etc. On utilisait l'LED du Canada. Hein. C'est très facile, vous prenez de l'LED du Canada, etc. C'était une espèce envahissante. Maintenant, allez trouver de l'LED du Canada, il n'y en a plus. Donc effectivement, la Jussie va probablement entrer. Alors, il y a toujours une phase invasive, puis ensuite, elle va être contenue. Enfin, elle va trouver dans certaines circonstances. Hein. Voilà, elle commence effectivement à trouver. Il y a des facteurs limitants. Voilà, effectivement. Voilà, c'est ça. Il y a une période de régression. Alors effectivement, après alors est-ce que pour autant il faut laisser le temps et puis la Jussie elle trouvera sa place avec les autres. Peut-être qu'effectivement il faut réguler, il faut intervenir. Donc là, on évoquait les chasseurs tout à l'heure. Les chasseurs ont un rôle à jouer dans certaines zones, dans certaines forêts, dans la régulation des populations de grands mammifères. Hein, et heureusement qu'ils sont là. Sauf qu'effectivement, l'opposition que l'on fait assez souvent entre, allez, on va dire, la figure du naturaliste écolo d'un côté et puis le méchant chasseur de l'autre. Bon.
Non, attendez, madame, il y a une autre question.
Oui, un complément, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures de cette affaire-là, mais c'est une question intéressante, effectivement. Moi, je me mets à la place des enseignants. Et bon, moi, je rencontre ça aussi dans mon conseil municipal, hein, où il y a des chasseurs et puis des gens qui ont été élevés dans cette... tradition. Le terme de nuisible, malheureusement, il existe encore. C'est une aberration écologique, mais il existe encore dans le code rural. Bon. Et quand on parlait tout à l'heure des arrêtés préfectoraux qui sont pris, malheureusement, ils sont pris après avis des commissions départementales de la faune sauvage, où les chasseurs sont majoritaires. Donc c'est complètement faussé dès le départ. Pour ce qui est du renard, par exemple, qui est un exemple typique, il y a eu un rapport, je voudrais en parler, peut-être qu'il peut servir de temps en temps dans les lectures ou les documents, sur le rôle économique, ça a été fait par une DREAL, je crois, en Normandie, le rôle économique des prétendus nuisibles et qui démontre, alors là du coup il parle de chiffres, mais qui explique que le renard, en consommant 5 ou 6 000 campagnols par an, évite des dizaines de milliers d'euros de dégâts à l'agriculture, ou au jardin, hein, d'ailleurs, dans les campagnes, puisqu'il y a 2-3 ans, il y a eu des invasions monstrueuses de campagnols parce qu'ils avaient exterminé les renards. Quoi, voilà. Donc c'est une notion qui est difficile à expliquer, mais ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux enfants, c'est qu'effectivement, la notion de nuisible n'existe pas. Tout animal a un rôle à jouer et qu'après, toute la subtilité, c'est de faire en sorte que à la fois les animaux et les humains puissent coexister. Mais on pourrait en parler pendant très très longtemps.
Il y a un très vieux numéro de la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, qui avait fait tout un numéro sur le renard et que j'utilisais moi en classe, effectivement, pour casser un peu les représentations erronées sur le mode de vie et le régime alimentaire du renard. C'était très très, très intéressant, effectivement.
Oui, pour rattacher cette discussion sur les nuisibles au thème de la biodiversité, ce qui est très intéressant, c'est que là, on parle de nuisibles, on parle de quoi ? D'animaux quand même extrêmement sympathiques, renards, etc. On ne parle pas du moustique. Tous les départements français ont des comités de démoustication. On n'en parle jamais. On ne parle jamais de l'impact environnemental de ces campagnes de démoustication qui se passent avec l'accord général des populations, y compris des populations, on va dire, sensibilisées aux causes écologiques. C'est-à-dire que tout le problème, c'est pas simplement qu'on a une sorte de dichotomie entre les animaux sympathiques et les nuisibles, on a une dichotomie beaucoup plus vicieuse et compliquée, où il y a des animaux qui ne sont et des éléments de biodiversité, c'est pas que des animaux, dont on ne parle jamais. Il y a un exemple que je donne. Est-ce que vous connaissez les listes rouges de l'IUCN comme principe? Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, alors, parce que j'ai vu beaucoup de têtes hocher. Alors, je vais vous présenter ça très rapidement. L'IUCN, c'est un organisme international qui établit une sorte de bilan de l'état de santé espèce par espèce. Et ce bilan permet de savoir quelles sont les espèces menacées et l'évolution au fil du temps, parce que c'est des recherches qui se déroulent depuis les années 45. De savoir un petit peu où on en est. Et cet organisme a évalué, par exemple, la plupart des oiseaux. Donc on sait précisément quelles espèces sont menacées, un peu menacées, pas du tout menacées, et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est des outils en plus d'organisation de la politique. Parallèlement, les parasitologues estiment qu'un animal sur deux est un parasite. Un animal sur deux, c'est énorme. On estime que 75% des relations trophiques, c'est-à-dire qui mange qui dans la nature, impliquent au moins un parasite. Le parasitisme est donc omniprésent dans la nature. Et vous savez combien il y a de parasites mentionnés sur les listes rouges de l'IUCN ? Un seul. Donc il y a là aussi des interrogations à faire sur la construction que l'on a d'un mot valise qui s'appelle biodiversité, où on pense immédiatement à des animaux sympas que tout le monde a envie d'avoir chez eux, enfin éventuellement, mais pas du tout aux bêtes dégoûtantes, répulsives, qui piquent, qui grattent, etc. Et ça, c'est vraiment une question importante dans la prise en compte de l'importance de la biodiversité.
Les espèces médiatiques, moi, j'ai essayé de créer la société protectrice des araignées, je n'y suis pas arrivé.
Tu demandes à Villani, c'est un grand, grand amateur de Cédric Villani, il adore les araignées.
Avant l'intervention de madame, je voulais seulement demander, est-ce que le frelon asiatique peut être considéré comme nuisible ?
Alors si on passe toutes les espèces, on n'a pas fini.
Si. Alors, après, on parlait effectivement, oui, espèce, la juicie, on parlait tout à l'heure, c'est peut-être la salinisation, elle ne supporte pas le sel, on va peut-être arriver. Mais la plupart des. Alors, il y a les espèces endémiques qui sont chez nous, autochtones, etc. Les espèces. Et les espèces exotiques, il y a quand même très peu dans les espèces exotiques qui sont devenues invasives. C'est une quantité minime, mais du coup, celles qui sont devenues invasives posent des problèmes redoutables. Bon, le frelon asiatique, le problème, c'est que, bon, il a été importé comme bien d'autres. Il s'est retrouvé dans un pays sans véritable prédateur et on ne sait pas exactement les influences du changement climatique sur les colonies. Donc à l'heure actuelle, oui, il cause des dégâts, donc il est nuisible à l'apiculture, puisque bon, vous savez qu'il s'attaque aux abeilles et qu'on voit des spectacles assez, assez méchants hein, quand un frelon asiatique attaque un rucher. Mais dans l'état actuel des choses, sans prédateur et hors contrôle, c'est une espèce, moi, que j'appelle déprédatrice. Je préfère dire ça que nuisible, mais enfin, ça revient un petit peu au même. Alors, c'est vrai que pour le moment, on peut le considérer comme en tant que tel, quoi. Hein. D'ailleurs, il est maintenant mis sur les listes des animaux nuisibles et les fredons qui s'intéressent à ces problématiques-là peuvent intervenir.
Tu vas peut-être me confirmer ou m'infirmer parce que je suis pas spécialiste de la question, mais on dit aussi que cette espèce s'attaque aux ruches qui sont déjà mal en point, qui sont affectées par d'autres déjà. Enfin, il arrive à faire des dégâts dans une ruche qui est déjà affaiblie pour d'autres raisons. Alors ça peut être lié à des pollutions, à d'autres phénomènes.
Oui et non, parce que c'est vrai que quand les abeilles se défendent moins bien, bah c'est plus facile pour lui. Mais ceci étant, on l'a vu attaquer aussi des colonies, des ruches qui étaient en parfaite santé. Hein. Donc c'est pas vraiment cette problématique-là. Alors il paraît que là d'où il vient, les abeilles arrivent à se défendre en entourant un petit peu un frelon, en battant des ailes frénétiquement, et du coup il meurt de chaleur. Enfin bon, c'est assez étonnant, mais nos abeilles à nous n'ont pas encore appris le truc.
Une remarque sur les difficultés qu'on a en tant que prof de sciences dans nos classes, et peut-être plus marquée encore dans les zones rurales que dans les zones urbaines, c'est la concurrence que l'on a avec la culture, j'ai envie de dire populaire, même si c'est sans doute pas le bon terme, où il y a des tas de croyances qui sont extrêmement prégnantes chez les gens, de dire que bah, le renard ne peut pas être bon, le renard s'attaque aux poules à 90%, de dire que les écolos lancent des sacs de vipères par hélicoptère. Bah, c'est des choses que, quand je dis ça à mes élèves, quand je leur, ils ne me croient pas. Ils ne me croient pas. Et même tous les graphiques, tout ce qu'on peut donner à l'appui n'a pratiquement aucune force par rapport à ça. Et on est parfois complètement démunis par rapport à des choses qui sont des légendes rurales, pas urbaines en l'occurrence. Et vraiment, on manque parfois d'arguments. Donc si vous aviez des idées, on serait preneur.
Bon, ben, les idées, c'est aussi la culture scientifique. Hein. Il y a quand même des festivals. Il y a le festival de Minigout.
Mais j'entends bien que le déclaratif ne suffit pas. Enfin, je veux dire, le professeur de sciences de la vie et de la Terre, du haut de son autorité, ne suffit pas. Enfin, son discours n'est pas suffisant pour dire, mais non, c'est du fantasme. Effectivement, il y a peut-être...
Oui, il y a aussi la possibilité de passer des films, je pense, hein, des sélections de films pour les sensibiliser.
Moi, venant de la campagne bretonne, petit village, moi je me rappelle les gens qui massacraient les renards. Hein, il y avait vraiment des sorties de massacre. Hein, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc à l'école, on ne disait pas ces types qui passent dans la rue avec du sang sur eux. Excusez, je suis un petit peu peut-être émotive. Pourquoi ils font ça, etc. Non, c'était vraiment ancré dans l'inconscient collectif. Il fallait massacrer le renard, quoi. Donc il y a du boulot, donc je comprends bien ce que vous pouvez ressentir, en effet.
Oui, juste pour compléter, c'est qu'on a une vision qui est très 18e siècle, qui consiste à dire l'éducation permettrait de rendre l'être humain parfaitement bon, sensé, intelligent, équilibré, ouvert, gentil, etc. etc., etc. Il y a une chose qu'on tient peu compte, mais alors dans la question des nuisibles qu'on voit énormément, c'est le goût véritable pour la cruauté sous toutes ses formes. Il faut voir un déterrage de blaireaux, par exemple, pour comprendre que c'est une activité qui relève de l'hôpital psychiatrique et relativement peu d'une activité de chasse. Il y a une sorte de folie furieuse qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans les carnavals, dans les grandes beuveries, etc. Enfin, il y a une folie comme ça sociale qu'il y a à ce moment-là. Et c'est vrai que les instruments pédagogiques, didactiques, etc., le savoir... c'est pas dans cette sphère que ça évolue. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Et qu'un élément qui est sans doute important à ça, c'est les dimensions éthiques. Non pas pour valoriser la nature en tant que telle, mais de l'éthique à l'autre, que ça soit vis-à-vis des êtres humains ou des espèces, animales ou végétales. L'un des grands enseignements justement du 19e, c'est que lorsque la protection de la nature émerge, on ne fait pas de distinction entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on cherche en combattant la destruction des oiseaux, par exemple ? C'est parce qu'on estime que si on détruit les oiseaux, on va détruire la société. Parce que c'est la même forme de violence qui s'exprime contre la nature ou contre les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu des discours des sociétés de protection de la nature depuis des années, parce qu'il y a une sorte de mainmise, de domination des discours de type scientifique. Et c'est vrai que les discours moraux devraient être réinjectés au niveau du comportement individuel.
Oui, je crois que je suis vraiment d'accord avec ce que dit Valérie. Je pense que ça se passe au niveau, en effet, du rapport de l'homme et l'animal, dont on parle beaucoup maintenant. Hein. Il y a énormément de choses là-dessus. Nous, on a fait des journées d'études, on a édité des actes. Peut-être que sensibiliser les élèves là-dessus, de leur demander c'est quoi l'homme, c'est quoi un animal pour vous, ne serait-ce que ça. C'est quoi la cruauté aussi, parce que là, oui,
c'est intéressant. C'était développé par un certain nombre de philosophes également. Cette espèce d'isomorphie qu'il peut y avoir entre société humaine et puis le monde animal, en disant effectivement une société dans laquelle les relations se dégradent est une société qui a un rapport à l'environnement qui se dégrade également. Et alors qu'une société dans laquelle le respect, l'éthique, la relation à l'autre est de qualité, est une société qui aurait, par effet de contamination positive, un bon relationnel avec son environnement et avec la nature. Et de fait, bon, on a utilisé souvent l'exemple des guerres. Effectivement, les périodes de guerre sont des périodes au cours desquelles les relations humaines sont effectivement extrêmement dégradées. Et on sait très bien que les guerres sont aussi des moments d'agression forte au niveau de l'environnement, au niveau de... Je pense à, par exemple, même... au 19e siècle, pendant la guerre de 70, où on a brûlé des forêts pour pouvoir ouvrir des champs de bataille. Donc il y a dégradation des relations sociales et puis dégradation des relations à l'environnement.
Oui, d'ailleurs, au Vietnam, on avait versé l'agent orange pour détruire les forêts, pour voir les méchants vietnamiens qui étaient dessous et pouvoir les tirer comme il fallait. Il y a une phrase récente, je ne sais plus de qui elle est, qui disait que ce qui compte dans la sauvegarde du Grand-Duc, mettons, c'est pas tellement... Alors après, c'est un peu provocateur. Ce qui compte dans la sauvegarde du Grand-Duc, c'est pas tellement de sauver le Grand-Duc en lui-même, mais de développer les qualités humaines nécessaires pour le sauver. C'est pas inintéressant comme réflexion.
Oui, je crois que c'est Boris Cyrulnik qui disait que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la capacité pour l'homme de s'imaginer dans l'animal. La différence entre un chat qui attrape une souris et un gosse qui torture une souris, c'est que le chat s'imaginera jamais dans la souris et le gosse, il doit pouvoir s'imaginer dans la souris, et on perd toute humanité si on n'est pas capable de se transférer dans la bestiole moustique ou quoi que ce soit, ou la petite fourmi qu'on écrase volontairement. Et c'est Cyrulnik et j'ai...
Oui, je ne sais pas si c'est un message d'espoir, mais bon, vu notre comportement depuis maintenant à peu près une cinquantaine d'années vis-à-vis de l'environnement, quand on voit d'où on part et où on en était quand même arrivé, il y a eu quand même une sérieuse évolution. Ce qui me fait dire en fait que tout simplement l'aspect culturel, il ne faut pas imaginer que par nos discours on va changer du jour au lendemain en fait une culture. Il ne faut pas être illusoire, ça va prendre quand même quelques générations. Mais vu d'où on vient, on a quand même noté un certain regard, une certaine amélioration. Donc je pense que c'est pas, on baisse pas les bras, on continue et puis on verra bien en fait, mais a priori ça ne peut aller pour moi qu'en s'améliorant ou du moins aller de manière positive si on tient ce discours et si on ne cherche pas tout de suite à abonder. Donc pour ma collègue de SVT et courage.
Je veux bien, mais quand même sur la question des pesticides, alors que toutes les alarmes sont tirées, eh bien on se rend compte que la vente des pesticides ne fait qu'augmenter, hein, quand même. Donc, ça conditionne bien une certaine. Ah ben moi, j'en étais resté à avoir lu des documents l'an dernier, et ça semblait les ventes continuaient d'augmenter. Hein. Voilà. Je voulais juste. Oui, d'accord. Ah oui, parce que. Oui, il faudra. Je ne sais pas si les générations pourront aller jusqu'à connaître l'amélioration. Enfin, parce qu'il va y avoir une concurrence entre les menaces et les espoirs. Bon. Sur toutes ces questions, bon, moi je ne suis pas du domaine de la science, mais je voulais juste, par rapport à tout ce qui a été brassé avant, là, par rapport aux grandes idées, citer un ouvrage qui, moi, m'a profondément marqué, c'est « Les racines du ciel » de Romain Gary. Vous n'avez pas cité peut-être... C'est vraiment un roman qui anticipe beaucoup tous ces concepts et qui brasse tout en fait, tout ce qui vient d'être dit, enfin avec le côté littérature épique un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez en parler un petit peu, c'est.
Non, je vous remercie de citer Romain Gary, ça fait partie de mes écrivains cultes. Il parle très très bien des éléphants. Hein, c'est des moments. Lisez Romain Gary, vraiment. Il n'a pas écrit que qu'Émile Ajar. Hein, c'est un grand bonhomme. Donc voilà. Donc je vous invite à aller visiter. Vous avez le droit, parce que j'ai demandé à ma collègue d'aller visiter l'exposition La Merce des Chênes entre midi et deux. Donc il suffit que vous vous présentiez aux hôtesses, vous dites que vous faites partie du stage et vous pouvez la visiter. Voilà, comme vous voulez. Vous gérez votre temps. Oui, vous pouvez laisser les affaires. À tout à l'heure à 14h. Merci à tous.